Bonjour et bienvenue dans notre analyse en profondeur du jour. Je suis votre hôte et aujourd'hui on va plonger dans les conclusions du projet Tip for Kids. On va décortiquer tout ça avec notre expert maison.
Salut à toutes et à tous, je suis vraiment ravi d'être là. C'est un guide fascinant sur les pratiques tenant compte des traumatismes, surtout pour les enseignants ou les travailleurs sociaux en fait.
Voilà, et on entend hyper souvent cette image, tu sais, de l'enfant qui franchit la porte de l'école avec un sac à dos invisible, un sac rempli de pierres qui représente les violences ou le stress accumulé.
C'est ça, oui. Sauf que le document montre que cette métaphore atteint super vite ses limites, c'est trop statique. Comme image.
Trop statique, ouais. Parce que le traumatisme, c'est pas juste un poids mort qu'on porte sur le dos. C'est vraiment une altération active du système nerveux.
Exactement. Et l'enjeu principal du rapport, c'est de prouver que gérer ces traumas, ça dépasse largement le cadre strictement médical. C'est une vraie responsabilité sociale.
Ce qui m'a fasciné, c'est qu'il remplace l'idée du sac à dos par un détecteur de fumée complètement déréglé.
Ah, c'est une analogie très puissante. Au lieu de sonner uniquement quand il y a le feu, il va hurler à la moindre odeur de pain grillé.
C'est fou, ça! Donc, neurologiquement, l'amygdale de l'enfant traumatisé est tellement hyperactive qu'une remarque totalement neutre du prof peut être perçue comme une menace de mort.
Bah oui, le corps déclenche une réponse automatique de lutte ou de fuite instantanément. Et c'est là qu'il faut vraiment changer nos lunettes. Arrêter de voir uniquement le comportement de surface.
Tu veux dire arrêter de penser que l'enfant qui se referme ou qui explose fait juste preuve d'indiscipline malveillante?
C'est tout à fait ça. Son alarme interne vient juste de se déclencher face à une fausse menace, quoi. Si on intègre cette mécanique, on transforme nos interactions pour éviter la retraumatisation.
Mais attends, soyons pragmatiques deux secondes. Un élève pète un plomb et jette une chaise à travers la salle de classe. L'enseignant doit d'abord protéger les autres, non?
Bien sûr, la sécurité immédiate prime toujours, ça c'est une évidence.
On ne demande pas au prof de mettre une casquette de psy pour faire une analyse clinique sous une pluie de chaise, enfin, c'est impossible.
Non, pas du tout. Les directives ne demandent pas ça. C'est vraiment une question d'établissement d'un climat de fond. Adopter un prisme de compassion systématique.
Donc, un ajustement continu de l'environnement éducatif.
Voilà. Pour que l'adversité soit rencontrée avec un cadre prévisible. Mais ça se fait pas avec une formation technique d'une journée.
Sauf que gérer des dizaines de détecteurs de fumée déréglés tous les jours, ça provoque une surcharge émotionnelle énorme chez les adultes. On sort toujours cette fameuse excuse du masque à oxygène dans l'avion.
Ah oui, l'idée qu'il faut prendre soin de soi avant d'aider les enfants.
Ouais. Sauf qu'en pratique, un parent ou un prof complètement épuisé n'a bien souvent aucun masque à disposition.
C'est là que le rapport est particulièrement incisif. Il affirme que l'auto-soin individuel, genre conseiller aux adultes de prendre un bain moussant le week-end, c'est une illusion face à un problème systémique.
Donc la révision, c'est pas juste un truc individuel, c'est une infrastructure collective en fait.
Absolument, il faut un vrai filet de sécurité institutionnelle, une interconnexion robuste entre les écoles, les familles et les services sociaux locaux.
Ce qui nous amène à la co-régulation. J'adore ce principe. Un système nerveux adulte, bien ancré, sert de repère pour apaiser celui de l'enfant. Des petits actes constants, comme écouter sans juger.
Exactement. Le rapport insiste là-dessus. La guérison ne s'opère jamais dans l'isolement, elle naît dans la relation.
Donc, si on soutient les adultes pour qu'ils aient la bande passante émotionnelle nécessaire, on aide directement les jeunes.
C'est l'investissement le plus pragmatique possible.
Ce qui donne tout son sens à cette conclusion marquante du document. Chaque acte d'empathie est un acte de prévention. Et chaque relation tenant compte des traumatismes est un pas vers la guérison.
L'impact ne se trouve pas dans des protocoles rigides, mais vraiment dans la qualité de ces micro-interactions.
Ce qui m'amène à une réflexion finale, un peu inconfortable, je l'avoue.
Ah, je t'écoute.
Si la capacité à réguler les jeunes dépend de la stabilité émotionnelle de la communauté adulte, dans quelle mesure nos propres traumatismes invisibles d'enfance, nos propres détecteurs de fumée défectueux, dictent-ils secrètement la façon dont on réagit aux enfants d'aujourd'hui?